Chapitre 28. Le monastère des Oblats de Marie Immaculée. Le scandale que j'ai raconté plus haut et qui avait tant ébranlé ma foi dans la sainteté de mon église faisait encore saigner mon âme de dégoût et de terreur lorsque le père Guigue, supérieur des Oblats de Marie Immaculée, établi à Longueuil, près de Montréal, vint passer quelques jours avec moi pour refaire sa santé. Je lui racontais cet effroyable drame et ne lui cachais pas que je me sentais impuissant à lutter plus longtemps contre ce fleuve d'ordures dont les eaux noires, rapides et profondes roulaient et débordaient partout avec une force irrésistible. « Nous sommes ici seuls en la présence de Dieu, lui dis-je. Je ne vous cacherai pas que mon âme est remplie d'épouvante. » Damoclès, avec l'épée menaçante suspendue sur sa tête, n'était pas plus saisi d'effroi que moi à la vue des dangers qui nous environnent dans notre saint mais si terrible ministère. « Je vous comprends parfaitement, dit le père Guigue, avec la bonté d'un père et la gravité d'un apôtre. Comme vous, je suis prêtre, et comme vous, pour ne pas dire plus que vous, je connais les dangers formidables de notre sacerdoce. C'est parce que je les connais que je n'ai jamais voulu rester un seul jour dans le clergé séculier. Il y a peu de temps que j'ai appris l'histoire déplorable du coadjuteur de l'évêque de Québec et de Joseph. Mais, que de choses plus déplorables encore, j'ai apprises dans les retraites que j'ai prêchées en France et au Canada. Toute proportion gardée, je pense qu'il y avait plus d'âmes pures dans Sodome le jour de sa destruction qu'il y en a aujourd'hui dans le clergé séculier. Le fait est que, sans un miracle de Dieu, il me semble impossible à un prêtre séculier de conserver la vertu de chasteté au milieu des dangers qui l'environnent. Notre Sainte Église serait depuis longtemps perdue sans ressources si Dieu ne lui avait fait la grâce de former des ordres religieux où la vertu de ses prêtres, protégée par les saintes et strictes ordonnances de la vie monastique, brille partout de l'éclat le plus pur et donne encore au monde l'exemple des vertus apostoliques. Il me parla longuement et avec enthousiasme de la paix dont on jouit dans un ordre religieux. Il me montra avec éloquence qu'on est plus à l'abri des séductions du péché et qu'il est plus aisé de sauver son âme lorsque l'on vit sous la conduite et le regard d'un supérieur dont les soins et la piété sont comme un bouclier contre les traits de l'ennemi. Il ajouta « Vous avez établi la société de tempérance dans presque tout le diocèse de Québec. On a besoin de votre expérience et de vos fortes études sur cette question dans le diocèse de Montréal. Venez donc chez nous. Nous sommes 30 jeunes prêtres dans notre ordre religieux, tous accoutumés à la vie missionnaire. Nous serons heureux tous de vous seconder et de vous soutenir dans cette œuvre évidemment au-dessus des forces d'un seul homme. D'ailleurs, ajouta-t-il, vous ne pouvez pas rester curé de Kamouraska et prêcher la tempérance par tout le pays à la fois. Allons, mon jeune ami, offrez au bon Dieu le sacrifice de votre chère paroisse. Vous avez fait autrefois de celle de Beauport pour le bien du Canada et de l'Église qui vous appelle. Il me semblait que je n'avais rien à répondre de raisonnable à ce discours. Je tombai à genoux et fis à mon Dieu, au milieu de larmes brûlantes, le sacrifice de ma paroisse. Mais avant de quitter Kamouraska, j'avais reçu une lettre d'un ami bien cher, mais bien pauvre, que Dieu avait favorisé d'une nombreuse famille. La lettre m'arracha des larmes. « Vous connaissez ma position, me disait-il. Chargé de famille, il m'est absolument impossible de donner aux miens le pain matériel et intellectuel que tout père doit à ses enfants. Une pensée ne cesse de hanter mon esprit depuis plusieurs mois. Vous avez étudié l'anatomie et les terribles effets produits sur le système humain par toutes les boissons enivrantes. Vos succès dans votre lutte contre le démon de l'intempérance ont été merveilleux. Il me semble que vous pourriez écrire un livre qui serait le bienvenu dans toutes les familles canadiennes. Ce livre rapporterait beaucoup d'argent. Je me suis dit, si le cher père Chiniki voulait écrire ce livre et me donner le bénéfice des deux premières éditions, cela ne lui ferait aucun tort, mais me fournirait les moyens de me relever et d'assurer l'avenir de mes chers enfants. Pouvez-vous faire cela, monsieur Chiniki? Si vous le pouvez, vous en serez béni dans le temps et dans l'éternité. Je n'avais jamais pensé à écrire un livre sur ce sujet, mais le désir de sauver cette famille, qui m'était chère, frappa mon esprit comme un trait de lumière. Je me jetai à genoux et m'écriai « Si c'est ta volonté, ô mon Dieu, que j'écrive un bon livre sur la tempérance, je promets que les deux premières éditions seront pour cet ami qui m'est si cher. » 3 mois plus tard, le livre « Manuel de tempérance » était achevé, mais je n'avais pas le temps de recopier le manuscrit. Je le roulais, informe comme il était, et allai trouver le capitaine d'un schooner nommé Béchard qui devait partir le lendemain pour Québec. « Connaissez-vous un tel à Québec ? » lui demandai-je. « Il a une nombreuse famille et est aussi pauvre qu'un rat d'église. Eh bien, quand vous serez à Québec, voulez-vous aller le trouver et lui remettre ce rouleau de papier avec cette petite lettre ? Je lui écrivais : « Mon cher ami, voici ma réponse à votre lettre d'il y a 4 mois. J'ai travaillé jour et nuit pour écrire le livre que vous m'avez demandé. Faites-en publier 2 éditions à votre bénéfice. Gardez jusqu'au dernier centime pour vous et vos chers enfants. Et, quand ces 2 éditions seront épuisées, rendez-moi mon manuscrit. Que Dieu vous bénisse et vous fasse prospérer. Telle est la prière de votre ami dévoué, C. Shiniki. » Une semaine plus tard, c'était dans l'automne, le capitaine Béchard frappait à ma porte. J'eus de la peine à le reconnaître. Il paraissait avoir vieilli de 20 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Sa voix était suffoquée par les sanglots. « Eh bien, mon cher ami, lui dis-je, que vous est-il donc arrivé ?» Il me répondit, « Oh, cher père Shiniki, j'ai perdu mon précieux schooner. Il a fait naufrage dans la dernière tempête sur les rochers entre Beauport et Saint-Vallier. C'est par un vrai miracle que je me suis sauvé avec le reste de l'équipage. On m'a ramassé sans connaissance sur le sable où j'avais été lancé par une vague furieuse. Et le petit rouleau de papier que je vous avais confié, où est-il ? » ?»« Il est perdu, me répondit-il. Je l'avais mis dans mon coffre qui est maintenant au fond de la rivière. Le peu d'argent que j'avais gagné cette année est également perdu. Tout, jusqu'au dernier sou. Je suis ruiné. Qu'est-ce que ma pauvre famille va devenir maintenant ? » Je lui répondis, « Mes papiers ne peuvent pas être perdus, et quant à vous, ne désespérez pas de l'avenir. » J'allai à mon bureau, pris quelques vieux papiers, les lui mis dans la main et lui dis, « Voici 25 louis pour vous aider dans votre malheur et je vous promets de vous en obtenir le double de mon riche oncle Dion. Vous savez que les riches fermiers de Kamouraska vous aideront aussi à acheter un nouveau schooner. Courage, ne perdez jamais confiance en Dieu. » Nous nous sommes mis à genoux, avons prié et pleuré ensemble. Puis je lui dis, « Où pensez-vous que je puisse trouver votre petit coffre qui contient mes papiers ?»« Vous ne pourrez le trouver, me répondit-il. Il a été lancé contre les rochers avec le reste. J'ai passé 4 jours à chercher tout ce qu'on pouvait trouver sur les 2 rives. Je le congédiai, appelai mon domestique et lui dis, « Attelez le cheval au cabriolet. Je veux aller à Québec sans un moment de retard. » Les chemins étaient affreux. Il nous fallut 2 jours pour arriver à la première maison de Saint-Vallier. Là, je brisai l'une des roues de ma voiture dans un trou. Je me rendis à la maison la plus proche. Après avoir pris des rafraîchissements et quelques repos, je dis au maître de la maison, « Avez-vous entendu parler du naufrage du schooner appartenant au capitaine Béchard ?»« Oh, rien qui vaille. Si ce n'est que ce matin, j'ai vu un petit coffre empêtré dans la vase et les branches. Je l'ai rapporté ici et donné à ma femme. Puis-je voir ce petit coffre ?»« Oh, certainement. Il était dans un coin tout ruisselant d'eau. Je l'ouvris et la première chose que je vis sous le couvercle fut mon manuscrit. Je tombai à genoux pour remercier Dieu de cette découverte providentielle. Puis, je le portai moi-même à mon ami à Québec. Quelques semaines après, je recevais une lettre de M. Baillargeon, curé de Québec et qui devint plus tard archevêque, lettre contenant ce passage que je copie littéralement. « Votre merveilleux petit livre, Manuel de tempérance, vient de paraître. » J'ai commencé à le lire avant de me mettre au lit et savez-vous qu'il m'a été impossible de dormir avant de l'avoir achevé. Je suis allé visiter hier matin mes paroissiens de Québec et leur ai dit, « Après l'Évangile, c'est le meilleur livre que vous puissiez lire. Il est écrit par le père Shiniki et, j'espère sous peu de jours, en voir un exemplaire dans chaque maison de Québec et du Canada. » Le résultat a été que dans les 3 jours suivants, l'on en a vendu 3000 exemplaires à 50 cents chacun et j'espère que l'on en vendra 10 000 autres, de sorte que tout le pays pourra vous bénir. Mon ami, par la grande miséricorde de Dieu, fut retiré de la misère et mis à l'aise. Intelligent et industrieux, il profita de ses avantages et aujourd'hui, ses enfants sont notés parmi les premières familles du Canada pour le talent, la richesse et l'honorabilité. Naturellement, le père est mort depuis longtemps. Maintenant, si vous me demandez ce qu'ils font pour me témoigner leur gratitude, je vais vous le dire. Poussés par leur prêtre, ils me maudissent parce que je crois et je prêche qu'il n'y a qu'un nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Le premier dimanche de septembre 1846, j'y fis mon discours d'adieu et partis tôt après pour le couvent des Oblats de Marie Immaculée, dont le but est de prêcher des retraites dans les paroisses du pays. 2 mois plus tard, je demandai à genoux la faveur d'être reçu comme novice dans cet ordre. Jamais prêtre de Rome ne s'enrôla sous les mystérieuses bannières d'un ordre religieux avec plus de ferveur que moi. La vie monacale m'apparaissait sous les couleurs les plus belles. Je regardais comme la plus grande faveur que le ciel puisse m'accorder de passer le reste de ma vie à l'ombre paisible de ce monastère, au milieu d'hommes qui avaient élevé un mur de séparation entre eux et ce monde perfide et corrompu au piège duquel je venais d'échapper. Je n'aurai plus sous les yeux que les exemples des plus héroïques vertus du christianisme pour me guider dans les voies du salut. Les traits de l'ennemi ne pourraient jamais m'atteindre derrière ces murailles protégées par la mer immaculée de Dieu. Les effroyables tempêtes qui avaient couvert de tant de naufrages les mers que je venais de traverser et d'où j'avais tant de fois failli périr ne pouvaient troubler les eaux paisibles du port où ma barque venait de trouver un abri. Mais ces beaux rêves furent de courte durée. Lorsque j'étais encore à ses genoux, le père Guigue m'avait présenté avec beaucoup de solennité un livre latin contenant les règles de l'ordre en me disant que c'était un livre secret que je ne devais jamais montrer à personne en dehors de notre institut. Lorsque le lendemain, je remerciai Dieu, la Sainte Vierge, des faveurs que j'avais reçues la veille, je me sentis troublé par une pensée soudaine. « N'as-tu pas mille fois entendu dire, et ne l'as-tu pas répété souvent, que ton Église a toujours anathématisé les sociétés secrètes et, ne voilà-t-il pas, que tu appartiens à une société secrète ?» J'essayais longtemps de raisonner contre cette voix et de la combattre de mon mieux. Elle allait me travaillant de plus en plus lorsque tout à coup, l'heureuse idée me vint que je n'étais plus qu'un cadavre. Je me répondis donc à moi-même. N'as-tu pas pour toujours renoncé à ton jugement privé ? N'es-tu pas un cadavre dont l'unique affaire est de te laisser mouvoir de droite à gauche comme tes supérieurs le voudront ? Depuis quand un cadavre perd-il son temps à raisonner ? Serais-tu assez insensé que de perdre la belle couronne que tu as devant toi au premier pas que ton Dieu te demande de faire dans les voies de la perfection ? J'ordonnais donc à ma raison de se taire et j'étouffais la voix de mon jugement privé. Puis, pour mieux faire cesser cette première tentation, je me mis à étudier le saint livre de nos règles avec la plus profonde et la plus respectueuse attention. Je n'avais pas fini cette étude que je compris pourquoi l'on tenait ce livre caché et que l'on faisait un secret de son contenu. Rien ne peut égaler la surprise que j'éprouvais lorsque je vis que du commencement à la fin, il ne parlait qu'avec le plus souverain mépris des curés et des autres prêtres séculiers. Quelle ne serait pas la surprise, l'indignation et la colère des curés du Canada s'ils savaient ce que ces étrangers, car la plupart des oblats étaient des étrangers nouvellement arrivés de France, pensent et disent d'eux. Continueraient-ils à les traiter avec tant d'égard et de respect ? Les élèveraient-ils jusqu'aux nues devant leurs ouailles ? S'ils savaient que la première chose qu'un père oblat doit apprendre, c'est que le prêtre séculier est partout plongé dans le bourbier de l'impiété et du vice, qu'il n'est qu'un paresseux, un ignorant, un mondain, qui est la honte de l'Église dont le déshonneur et la perte seraient assurés si elle n'était pas soutenue et protégée par les vertus, la sainteté, le zèle et la science des oblats. Je m'aperçus avec non moins de surprise que de tristesse que la pierre fondamentale, ou plutôt toute la fabrique de l'ordre des oblats, n'était que le pharisaïsme le plus éhonté. L'oblat, avec le livre de ses règles qui constitue son véritable évangile, est convaincu de sa perfection et de sa sainteté, tandis qu'il ne voit que des défauts et des vices chez les autres. L'oblat est seul vraiment chrétien dans l'Église. Il n'y aura que des oblats dans le ciel. L'oblat est le sel de la terre, c'est la lumière, le salut du monde. Était-ce donc pour arriver à cette vertu pharisaïque que j'avais quitté mon beau Kamouraska et que j'avais abandonné la belle position que Dieu m'avait donnée dans mon pays ? Cependant, après avoir été assez longtemps troublé par ces tristes réflexions, je m'indignais de nouveau contre moi-même en me souvenant des affreux scandales, des infamies, des crimes honteux dont la plupart des paroisses où j'avais travaillé avaient été le théâtre. Je me rappelais l'ivrognerie de ce curé, la luxure de son voisin, l'ignorance crasse de cet autre, puis le manque complet de foi chez le plus grand nombre. Et j'en conclus qu'après tout, les oblats n'étaient pas bien éloignés de la vérité dans le sévère jugement qu'ils portaient sur les curés et les autres prêtres séculiers. Si, comme j'ai tout le lieu de le penser, me dis-je à moi-même, les oblats vivent dans la pratique des plus parfaites vertus évangéliques, est-ce un si grand crime pour eux de comprendre la différence qu'il y a entre eux et le clergé séculier ? Puis-je condamner de ce qu'ils se disent les uns aux autres, tout bas à l'oreille et dans le secret de leur cloître, ce qu'ils savent à ce sujet ? D'ailleurs, suis-je venu dans cette sainte maison pour tout critiquer et tout juger suivant mes préjugés et mes passions ? Quel droit ai-je de condamner ces prêtres si pieux qui m'ont accueilli avec tant de bonté ? Non, je suis venu ici pour m'y sanctifier par la pratique de la vertu. Or, la première des vertus est l'humilité et la plus parfaite abnégation de soi-même. Avec toute la ferveur de mon âme et le plus sincère désir d'être exaucé, je priais Dieu et la Sainte Vierge de me donner la grâce de m'élever à ce degré suprême de perfection, dans lequel, ayant parfaitement renoncé à mon jugement privé, j'obéirai à toutes les volontés de mes supérieurs avec une soumission aveugle. Les heures de la première semaine me parurent bien courtes. Elles étaient si bien remplies du matin au soir par la prière, la méditation et la lecture de livres ascétiques qu'elles s'écoulaient sans qu'on s'en aperçoive. Nous nous levions à 5h30, le déjeuner était à 7h, le dîner à midi et le souper à 6h. Pendant les repas, on gardait ordinairement le silence pour entendre la lecture de la vie d'un saint. Un jour, comme j'avais fini ma soupe et que je commençais à découper ma viande tout en écoutant avec attention, je me sentis tout à coup brusquement saisi par les pieds. Quelque ridicule qu'il y ait à le confesser, je crus que le diable venait de me tirer les jambes. Je sautai sur ma chaise pour échapper aux griffes du démon en m'écriant « Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ?» Des éclats de rire me répondirent. Enfin, un des pères vint à bout de me dire que c'était un de nos pères qui, par humilité, passait sous la table pour nous baiser les pieds. En même temps, j'aperçus le père Lagier, couvert de sueur et de poussière, se traînant sur ses mains et sur ses genoux et sortant de dessous la table pour aller se rouler sur le plancher dans des convulsions de rire. Comme de raison, lorsque j'eus compris la cause de ma terreur, je joignis mes rires à ceux de toute la communauté. Quelques jours plus tard, selon l'usage après le souper, nous allions de la salle à dîner vers la chapelle pour y passer quelques minutes à adorer le dieu Galette. Nous marchions vite et récitions tout le psaume « Miserere mei Deus », etc. Comme le dernier venu dans le monastère, je marchais le premier, la tête haute. Nous avions à franchir deux portes et il n'y avait pas assez de lumière pour bien distinguer les objets. En passant le premier seuil, mes pieds se heurtèrent contre un obstacle imprévu qui me fit culbuter face à terre. Le père qui me suivait de trop près, pour être averti à temps de rester sur ses gardes, se heurta au même objet et vint s'étendre de tout son long sur moi. Il en fut de même du troisième et de deux autres. Qu'est-ce donc qui nous a fait tomber ? C'était tout bonnement le père Brunet qui, dans un accès d'humilité, voulant montrer qu'il était en réalité un cadavre que l'on foule aux pieds, était venu s'étendre tout son long, la face dans la poussière, à la première porte qu'il nous fallait franchir. Quel trouble et quelle honte j'éprouvais lorsque, seul dans ma cellule, je m'efforçais de me persuader à moi-même que c'était là la perfection du christianisme. Une lutte ardente s'engageait à chaque instant entre mes devoirs d'oblat et mon intelligence d'homme. Cette intelligence indomptée et indomptable me criait jour et nuit, d'accord avec ma conscience, que ces prétendus actes d'humilité n'étaient qu'une caricature diabolique des humiliations du Christ. Je cherchais honnêtement à faire taire cette raison rebelle en lui disant qu'elle n'avait aucun droit de parler et de se faire entendre dans l'enceinte paisible et sacrée d'un monastère. Au lieu de m'obéir et de se taire, elle me criait toujours plus haut. Que Satan seul pouvait avoir baptisé de pareilles pratiques du nom du Sauveur et de son Évangile. Combien de fois, dans ces longues heures de lutte, sans merci entre ma conscience de chrétien et d'honnête homme, je me suis dit à moi-même « Chiniki, tu n'es pas venu ici pour philosopher, ni pour raisonner sur aucun sujet. Tu y es venu pour travailler à ton salut en devenant un cadavre, un bâton inerte. Tu ne dois avoir ici ni idée préconçue, ni connaissance acquise, ni règles de sens commun pour te guider. Pauvre Chiniki, tu n'es qu'un prêtre plein de toi-même, bouffi de vanité, perdu par l'esprit du monde. Tu es venu pour te sauver et tu n'y réussiras que lorsque tu auras courbé ton orgueilleuse raison sous le joug des règles de ce saint ordre. Tu dois te soumettre à chaque iota et obéir avec joie et sans arrière-pensée à chaque signe des volontés de tes supérieurs. J'allais deux fois par semaine au pied de mon supérieur, maître des novices, le père Allard, lui raconter mes tentations et mes difficultés. Il me consolait chaque fois en me promettant que si j'étais ferme et persévérant dans le combat, je remporterais bientôt la victoire et que je posséderais cette paix qui changerait le monastère en vrai paradis. Le temps approchait cependant où mes bonnes résolutions devaient rencontrer un rude échec. J'avais lu, dès le commencement de mon séjour au monastère, que chaque oblat devait surveiller les autres membres de la communauté et rapporter fidèlement et en secret au supérieur tout ce qui lui paraîtrait répréhensible et irrégulier dans leurs paroles ou leurs actions. Mais J'étais alors tellement préoccupé par d'autres pensées que je ne fis aucunement attention à cette règle. Le rouge me monta au visage et je me sentis pris d'une honte et d'un dégoût inexprimable lorsque, en lisant pour la seconde fois, j'en aperçus toute l'immoralité et toute l'infamie. Est-il possible, me dis-je, que nous ne soyons ici qu'une bande d'espions ? J'eus peu de temps après l'occasion de voir les désastreux effets produits par cette loi. Il y avait un père Oblat que j'affectionnais plus que les autres, à cause de ses bonnes qualités et de sa haute intelligence. Il m'avait aussi, bien des fois, donné des marques de la plus sincère amitié. Se trouvant un jour seul avec moi, il me dit « Au nom de Dieu, je vous conjure de me dire si c'est vous qui m'avez dénoncé au supérieur en m'accusant d'avoir dit que sa conduite n'avait pas toujours été charitable à mon égard. » « Mon cher ami, lui répondis-je, je n'ai jamais pu dire une pareille chose contre vous, pour trois raisons. La première, c'est que vous ne m'avez jamais donné à penser que vous aviez à vous plaindre du supérieur. La seconde, c'est que j'ai toujours cru que le père Guigues était rempli de la plus sincère charité à l'égard de chacun de nous. La troisième, enfin, c'est que je préférerais avoir la langue coupée et mangée par les chiens plutôt que de dénoncer un de mes frères et de devenir un espion parmi eux. Je suis bien heureux de savoir cela, me dit-il. Quelqu'un m'avait assuré que c'était vous qui m'aviez nuit dans la pensée de notre père supérieur, et j'avais de la peine à le croire. Je vous confesse que je regrette amèrement d'avoir quitté ma belle cure pour me faire oblat, et c'est cette infâme loi de délation qui me le fait surtout regretter. Elle change notre monastère en un véritable enfer, ou plutôt, elle fait un enfer de chacun des monastères qui sont dans l'église, car elle est générale pour toutes les maisons religieuses. Lorsque vous aurez fait un plus long séjour parmi nous, vous verrez qu'elle tarit à jamais entre nous les sources de la charité, de la paix et du bonheur. « Je comprends parfaitement ce que vous me dites, lui répondis-je. La dernière fois que je me trouvais seul avec notre père supérieur, il me demanda pourquoi j'avais dit que notre Saint-Père, le pape, n'était qu'un vieux fou. Il m'assura qu'un des plus dignes pères de la maison le lui avait dit. Je lui répondis que ce digne père ne m'avait pas compris, ou qu'il avait lui-même inventé cette histoire, vu que j'avais toujours pensé que notre pape était un des plus sages qui ait jamais gouverné l'Église. Je m'explique à présent cette gêne extrême que je remarque dans la plus grande partie de nos conversations. Personne n'ose dire son sentiment sur rien. Les conversations restent dans le vague et roulent sur des sujets qui sont en général parfaitement insignifiants. Je comprends que les pauvres pères aient peur les uns des autres, qu'ils ne voient que des espions sans pitié et pas un ami auprès d'eux. Mon Dieu, quelle triste vie! J'avais aussi comme associé, pour prêcher la tempérance à Saint-Hyacinthe, un moine français du nom de Guigues. Il avait la direction de la première partie du service et, avant de commencer son discours sur les dangers de la boisson, il disait aux fidèles du ton le plus pieux « Prions, mes frères, la bonne mère du Christ, de vous bien faire comprendre les suites funestes de l'intempérance. » Et comme tout le monde, touché par un appel aussi pathétique, tombait à genoux et inclinait la tête, le bon moine tirait un flacon de dessous son manteau et dégustait son vin avec délice. Il y mettait un tel entrain qu'il était facile de voir qu'il attendait plus d'inspiration de sa bouteille que de la Vierge Marie. Je ne puis m'empêcher de mentionner ici un autre fait qui prouve que certains prêtres canadiens, comme certains moines français, n'étaient pas sincères dans leur profession de tempérance, mais qu'ils étaient entraînés malgré eux dans ce grand mouvement par l'enthousiasme du peuple. Je parlais dans la même ville 6 mois plus tard, quand le matin qui suivit ma première conférence, le curé de la paroisse, M. Crevier, vient me trouver au déjeuner en se tordant les bras de désespoir. Je lui dis « Qu'avez-vous, monsieur le curé ?» Il me répondit « N'avez-vous pas entendu l'épouvantable vacarme qu'ils ont fait la nuit dernière quand ils ont détruit ma distillerie ?»« Eh quoi ?» lui dis-je. « Avez-vous donc une distillerie ?»« Oui, » me répondit-il. « Et vous m'avez invité à prêcher la tempérance quand vous avez une distillerie pour répandre l'ivrognerie ?»« Oui, je pensais que c'était une manière bonne et profitable de placer mon argent. » Dans ce cas, je me réjouis de voir que votre troupeau ait été assez intelligent pour s'apercevoir de votre duplicité et vous punir comme vous le méritiez. Je dois ajouter que les partisans de la tempérance avaient à mon insu et sans me consulter envahi la distillerie pendant la nuit et brisé toutes les machines. C'est vers cette époque que la providence de Dieu mit sous mes yeux une de ces ruines morales propres à faire trembler ceux qui se croient les plus forts. Nous avions appris que le grand vicaire de Montréal, M. l'abbé Quiblier, avait soulevé de tels scandales dans ses rapports avec les religieuses et les dames de la ville dont il était le confesseur à la mode, que l'indignation du peuple avait forcé l'évêque Bourget à le chasser. Il lui fallut descendre de son haut piédestal, traverser le fleuve avant le lever du soleil et prendre ignominieusement la route de l'exil. Notre supérieur Guigues sut habilement profiter de ce triste événement pour nous faire connaître tous les dangers qui menacent le prêtre séculier et nous demander de bénir le ciel de nous avoir mis à l'abri derrière les murs de notre sainte maison de Longueuil. Mais hélas, nous étions bien près du déplorable jour qui allait nous montrer que le cœur de l'homme est partout faible et pécheur. La cuisine avait été confiée à une veuve d'un nom respectable, âgée de plus de 40 ans. Malheureusement, après 2 ou 3 mois de résidence dans le monastère, cette veuve se prit d'amour pour son confesseur, qui avait la réputation d'être un des pères les plus fervents. Dans une heure néfaste, ils furent trouvés violant l'une des plus saintes lois que Dieu ait données à l'homme. La cuisinière fut renvoyée et le faible et coupable oblat puni. Mais la honte s'attacha sur nos fronts et la douleur perça nos armes comme un glaive à 2 tranchants. J'aurais préféré entendre lire mon arrêt de mort que de voir l'ennemi entrer si facilement dans un refuge que je croyais entièrement à l'abri de ses pièges. Depuis ce jour fatal, mon Dieu voulut dissiper les unes après les autres les illusions qui m'avaient conduit dans ce monastère, comme il dissipe les blanches vapeurs qui nous cachent quelquefois les rayons du soleil. Je commençai à comprendre que les oblats étaient des hommes comme les autres. Jusque-là, je les avais étudiés que les yeux fermés et je les avais vus environnés d'une auréole de sainteté que mon imagination seule avait créée. Depuis ce jour, j'ouvris les yeux sur la réalité. Au printemps de 1847, j'eus une assez grave indisposition et mon médecin me conseilla d'aller à l'Hôtel Dieu de Montréal où je trouverais plus aisément qu'à Longueuil les soins nécessaires. Ce couvent était près de la belle église Notre-Dame, dont il n'était séparé que par une rue étroite. Ce fut là que je fis, pour la première fois, la connaissance de la bonne sœur Urtubise, l'une des plus anciennes et des plus vénérables religieuses de l'Hôtel Dieu. Elle me traita avec toute la bonté d'une mère pour son enfant, et je ne savais comment lui en exprimer ma reconnaissance. Elle était encore pleine d'indignation contre 2 oblats qui, sous le prétexte de se faire soigner à l'Hôtel Dieu, y était venu dans le but évident d'y séduire 2 jeunes religieuses. Elle me dit comment elle les avait chassées ignominieusement, avec défense de jamais mettre les pieds dans le couvent. Sa conversation était très animée et intéressante. Elle savait à la perfection l'histoire de l'Église du Canada depuis les 50 dernières années. Elle était surtout familière avec les longs et scandaleux débats entre les prêtres du séminaire de Saint-Sulpice et l'évêque Talmès. Elle me raconta avec quelle cruauté ils avaient chassé celui-ci de leur séminaire en 1842 et comment ils n'avaient pu trouver d'autre asile que dans le couvent de l'hôpital général. Mais, ajouta-t-elle, cette faveur que nous avions accordée à notre évêque faillit nous coûter cher. Les rapports trop fréquents et trop libres des prêtres qui avaient affaire à leur évêque et qui passaient quelquefois 2 ou 3 jours dans le couvent amenèrent des désordres aussi déplorables que scandaleux. Nous l'avons respectueusement prié de se choisir une autre demeure. Je fus une des religieuses chargées de cette mission délicate. Nous ne lui avons pas caché que s'il refusait de nous accorder notre prière, nous étions décidés à retourner dans nos familles et à nous y marier honnêtement. Il nous semblait que le mariage chrétien valait mieux que l'état dans lequel la plupart des prêtres et même quelques-uns de nos confesseurs voulaient nous faire vivre. Après qu'elle m'eut raconté bien des faits intéressants de cet temps reculé, je lui demandais si elle avait connu Maria Monk et ce qu'elle pensait de son fameux livre « Awful Exposures ». Oui, mon père, je l'ai bien connue. Elle a demeuré 6 mois parmi nous. J'ai lu son livre, Monseigneur Lartigue nous l'avait mis entre les mains pour que nous le réfutions. Mais, après l'avoir lu, j'ai refusé d'avoir rien à faire avec cet affreux volume. Quant à son contenu, je ne voudrais pas dire que tout soit vrai. Il doit y avoir des exagérations dans ces épouvantables histoires, surtout quand on sait que ce sont des hérétiques qui ont fourni la plupart de ces tristes faits. Mais ce que je sais de ce livre, c'est que beaucoup des pages qu'il renferme ne sont que trop le fidèle récit des mystères d'iniquité que les murs de nos couvents dérobent au regard du monde. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que tout soit vrai dans ces « awful exposures », mais il s'y trouve assez de vérité pour faire réduire en cendres tous nos couvents, si elles étaient connues comme je les connais. » En me disant ces dernières paroles, elle cacha son visage dans ses 2 mains et fondit en larmes. Puis, elle se leva et me dit « Au nom de Dieu, Père Shiniki, ne faites pas connaître ces terribles révélations avant que je ne sois morte, ainsi que les sœurs qui connaissent ces choses comme moi. » Et elle s'en alla à pas rapide et disparut. Je restais pétrifié d'horreur devant ces révélations. Je regrettais sincèrement qu'elles m'aient été faites, mais Dieu sait que j'ai respecté ma promesse de ne pas parler avant qu'un tiers de siècle ne soit écoulé. Ces affreux secrets, dont la Providence venait de me faire le dépositaire, rendaient à l'avenir mon séjour à l'hôpital aussi pénible qu'il m'avait été agréable jusqu'alors. Quoique je fusse loin d'être bien rétabli, je quittai l'Hôtel-Dieu ce jour même, pour m'en retourner le cœur brisé et l'âme navrée d'angoisse à mon monastère de Longueuil. En arrivant, j'appris le retour de deux de nos pères qui avaient été évangélisés les hommes des chantiers, lesquels, au nombre de plusieurs milliers, allaient, tous les hivers, couper du bois dans les forêts arrosées par l'Ottawa et ses nombreux tributaires, jusqu'à 300 milles au nord-ouest de Montréal. Cette nouvelle me fit du bien. J'espérais que le récit que ces bons pères allaient nous faire des dangers qu'ils avaient courus au milieu des ours, des loups et des sauvages et de la cordiale réception qu'ils avaient reçue partout de ces intrépides bûcherons ferait une heureuse diversion aux sombres pensées qui m'accablaient. D'ailleurs, le père Guigue m'avait chargé d'écrire la relation de leur mission. Mais, le lendemain de mon retour, un seul de ses pères était visible et sa conversation embarrassée, couverte de nuages, était loin d'être intéressante. J'eus le pressentiment d'un pénible mystère. Qu'était donc devenu l'autre père ? À voix basse, on m'apprit qu'il avait reçu l'ordre de rester dans sa cellule, de ne parler à personne et de commencer une retraite de 10 jours. Je n'étais encore que novice et l'on me cachait avec soin tout ce qui n'était pas à l'honneur des moines. Je demandai en confidence à un intime ami la clé de l'énigme et il consentit à me la donner après m'avoir fait promettre de ne pas en parler au supérieur. Voici en abrégé ce qu'il me dit. Le pauvre père Durocher a séduit en route une femme, mariée à un de nos amis dévoués, et dans la maison duquel nos missionnaires ont toujours reçu la plus généreuse hospitalité. Le brave homme, ayant eu connaissance de l'infidélité de sa femme, a failli la tuer, dans un premier moment de colère. Il a ignominieusement chassé nos deux pères de chez lui et a tout écrit au père supérieur, qui a condamné le père coupable à une retraite de 10 jours. Il n'en sera probablement pas quitte à si bon marché, car le père supérieur est furieux. « Mais dites-moi, lui répliquai-je, ces faits se renouvellent-ils souvent dans cette communauté ?» Mon ami leva vers le ciel ses yeux mouillés de larmes et me dit « Vous connaissez la chute de notre pauvre père B avec la cuisinière ? Vous avez dû aussi entendre quelque chose de l'affreux scandale dont le père Telmont a donné le spectacle à Ottawa avec deux religieuses qui le tenaient presque du matin au soir au confessionnal ? Le Christ, le vrai Christ, est la plus haute conception de l'humanité, le monachisme en est la plus basse et la plus ignoble. Mon cher Père Shiniki, je me fie à vous comme à moi-même. C'est pour votre bien que je vous révèle ce secret qui n'est connu que de Dieu. Lorsque je serai sur les montagnes rocheuses, je prendrai mon essor comme l'aigle de ces contrées, je monterai vers les régions de la lumière et de la vie. Je cesserai d'être moine pour redevenir ce que mon Dieu m'avait fait. Un homme libre et raisonnable. Je cesserai d'être un cadavre pour prendre rang parmi les vivants, racheté par le Christ. Oui, oui, j'espère que Dieu va bientôt m'en faire la grâce. Lorsque je serai sur ces montagnes, protégé par les drapeaux de l'Angleterre et des États-Unis, je briserai à jamais mes fers d'esclavage. Je sortirai de mon tombeau. Je regrette que le moine remarquable dont je viens de donner, en abrégé les vues sur l'état monastique, m'ait fait promettre de ne pas le nommer. Si je racontais jamais son histoire. Fidèle à sa promesse, il s'est rendu aux montagnes rocheuses comme oblat, mais là, il a brisé sans bruit le joug humiliant de la servitude monacale pour devenir homme et chrétien, ainsi que le Christ l'a voulu, en s'unissant par les liens du mariage à une demoiselle américaine de la plus haute respectabilité. Guerrier faible et timide, épouvanté un jour par les ruines du champ de bataille, où j'avais à combattre, j'avais cherché un rempart pour me mettre à l'abri du danger. J'avais cru que le monastère des Oblats, de Marie Immaculée, était une de ces hautes tours aux fortes murailles où l'ennemi ne pouvait pénétrer. J'y étais entré avec joie. Mais, à peine avais-je commencé à me croire en sûreté, que ces fortes murailles se mirent à chanceler comme un homme ivre. Je sentis le souffle de la vérité et de la justice de Dieu passer sur mon âme avec un bruit d'ouragan, et il ne resta pas pierre sur pierre de l'édifice où j'avais cherché la paix. Une voix me cria alors : « Soldat, Viens combattre au grand jour. Ne mets plus ta confiance dans les tours élevées par la main des hommes et qui ne sont faites que des poussières et de boue. Viens combattre au grand jour sous le regard de Dieu et tu seras vainqueur par Jésus-Christ. J'écoutai cette voix et fis mes adieux aux Oblats le 1er octobre 1847. Ah, si j'avais pu, au prix de tout ce que j'avais de sang dans mes veines, faire passer dans leur âme les lumières que le Seigneur m'avait accordées sur les effroyables déceptions que l'ennemi cache dans les monastères. Mais je n'avais pas le pouvoir de Dieu pour changer les ténèbres en lumière. Il me fallait laisser ces pauvres moines se débattre sous les chaînes pesantes qui meurtrissaient leurs épaules.